France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Laura Dern. À 19h40, Affaire critique, Lucille Como nous parlera de la série The Last of Us. 19h45, Affaire en cours par Marie Sorbier. Pourquoi sous-titrer en français des films québécois ? Myriam Darcy, directrice de la fondation Lionel Groulx, nous donne son point de vue. 19h50, Affaire à suivre en compagnie ce soir du guitariste Christophe L'Huillier. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Alex Dang à la prise de son. Nous avons rencontré Laura Dern la semaine dernière lors de son passage à Paris. Alors peut-être que Bob de Twin Peaks s'est invité à notre rendez-vous car la prise de son de cet entretien a été altérée. Nous avons préféré conserver ce qui pouvait l'être et faire un nouvel enregistrement de la traduction avec Xavier Combes. Certains passages de l'original étant inaudibles, selon l'expression en vigueur, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Bonsoir, Laura Dern.
Bonsoir, my honor to be here.
Vous serez demain, 1er mars, à l'affiche du film de Florian Zeller, The Sun, ce qui me donne l'occasion de vous rencontrer pour revenir sur quelques moments importants de votre carrière et pour essayer d'en savoir un peu plus sur vous, sur ce qui guide vos choix. Dire que vous êtes une enfant de la balle, fille de Bruce Dern et Diane Ladd. Certains enfants rejettent le métier de leurs parents. Vous, au contraire, il semblerait que vous n'ayez jamais songé à une autre profession puisque... À 6 ans, vous épatez Martin Scorsese en mangeant 19 glaces pour les besoins d'une scène. Vous faites de la figuration dans Alice n'habite plus ici. 19 prises, 19 glaces. Est-ce que vous croyez à la vocation?
Je peux vous dire que pour qui que ce soit, à l'âge de 6 ans, quand on passe pendant l'été du tournage de Sa mère avec Martin Scorsese, à celui où mon père joue avec Alfred Hitchcock pour son dernier film Complot de famille, et qu'on reste assise, en silence, à regarder cela, ça conduirait tout le monde à devenir acteur. Donc, je crois à la vocation, mais c'est tout à fait naturel.
Alors vous intégrez la Lee Strasberg Theatre and Film Institute à 9 ans, vous courez les castings, à 11 ans, vous trouvez déjà un agent pour vous représenter, mais malgré tout, vos parents, ils n'avaient pas l'air tout à fait enchantés de votre choix, Laura Dern.
I think my mother was the most fiercely protective.
À vrai dire, ma mère était férocement protectrice.
Mostly as a woman.
Surtout parce que
elle
est une femme, moi aussi,
protective,
et donc elle savait que l'activité du cinéma n'est pas particulièrement bienveillante envers les femmes. À l'époque où je me suis lancé, je n'avais pas encore atteint l'âge de la puberté, donc j'étais entouré de gens qui rejetait le genre de fille que j'étais, le genre d'ado que j'étais. Vous voyez, je n'avais pas la possibilité de me découvrir moi-même, c'est les gens qui projetaient leurs idées du personnage sur moi. Donc c'est ça qui inquiétait ma mère. Mais au bout du compte, je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais entouré de réalisateurs courageux, généreux et aussi protecteurs que l'étaient mes parents.
Ce qui est toujours paradoxal dans ces cas-là, c'est que vous devez jouer des rôles de personnes qui vivent des choses que vous-même, vous ne vivez pas, puisque vous êtes en train de vivre une adolescence particulière.
Ce qui est formidable quand on est comédienne, c'est qu'on rencontre des personnages qui sont radicalement différents. Mais on accepte des rôles que l'on comprend du point de vue émotionnel. Et moi, je me sens toujours proche des personnages que j'incarne, d'un point de vue émotionnel et humain.
Puis il y a tous ces personnages que vous avez vus, notamment avec votre mère, qui regardait, semble-t-il, des films tous les soirs, et vous en avez beaucoup vu avec elle, dans votre enfance, votre adolescence. Pas forcément au bon âge pour les voir, mais quels films vous ont marqué dans cette période-là ?
Avant même d'être comédienne, mon père, ma mère et ma marraine, Shelley Winters, regardaient des films, comment dire, radicaux. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un véritable traumatisme, mais à l'âge de 5 ans, j'étais à la maison avec ma grand-mère et j'ai vu Betty Davis à la télévision. Elle se tenait en haut d'un escalier dans Chut, chut, chère Charlotte, et elle tenait une caisse, et dans la caisse, il y avait, tenez-vous bien, la tête de mon père. Ma grand-mère a tout de suite téléphoné pour appeler mon père, pour qu'il me parle, pour m'expliquer qu'il avait toujours sa tête et qu'il allait bien. Donc ça m'a un peu traumatisé, mais j'ai quand même gardé cet amour pour le cinéma. Mais cela dit, j'ai consulté un psychothérapeute pendant assez longtemps.
The Lucy Show, starring Lucille Ball, co-starring Vivian Vance.
Si vous avez de nombreuses admirations, Laura Dern, il y a une actrice, réalisatrice, productrice qui est une figure majeure pour vous, c'est Lucille Ball. Pourquoi elle ?
Quand j'étais gamine, je regardais Lucille Ball dans I Love Lucy tous les jours à la télé. Je ratais jamais un épisode. Et je ne vois pas de meilleure enseignante pour me préparer à tourner avec David Lynch. Lucille Ball était dans l'extrême de la comédie physique. Mais il fallait que ça semble sincère, pour qu'évidemment l'émotion soit partagée par les spectateurs. Elle était confrontée à la jalousie, l'ambition, les inégalités entre les hommes et les femmes, toutes ces choses très compliquées, mais dans une ambiance particulièrement édulcorée et sympathique. Et David Lynch, lui, il m'a donné un univers sans limite à jouer. Mais il fallait que je fasse passer de la sincérité et de la simplicité, malgré le caractère extrême des scènes que je devais tourner. Donc Lucille Ball, c'est vraiment le meilleur professeur de cinéma et de comédie que j'ai jamais eu.
On va bien sûr revenir sur votre long compagnonnage avec David Lynch, mais pour continuer sur le fil biographique, vous avez débuté le cinéma encore adolescente avec des films très différents. Le premier, c'était aussi le premier réalisé par Adrian Lyne. Puis ensuite, il y a un film avec deux membres des Sex Pistols et un de The Clash. Ça, j'aimerais bien voir ça. Ensuite, il y a Peter Bogdanovich, un film très sombre. Donc, je m'arrête juste avant la rencontre avec David Lynch. Mais ses premiers rôles, est-ce qu'ils confirment une vocation ? Est-ce qu'ils vous font sentir à votre place ?
Eh bien, mes parents sont très assidus, très travailleurs, disciplinés dans l'art de la comédie, et je me disais qu'il fallait que j'étudie la comédie toute ma vie. C'est ce que mes parents m'ont inculqué, et c'est ce que j'ai fait, et que je fais encore. Mais quoi qu'il en soit, chaque rôle me pousse toujours plus loin. Alors, c'est pas une découverte, hein, évidemment, mais ce qui est formidable quand on travaille avec des gens comme Peter Bogdanovich ou d'autres d'ailleurs, c'est qu'on vous donne des rôles absolument incroyables, compliqués. On travaille dans le monde du cinéma, on travaille dans le monde de la musique. Et vous savez évidemment que j'ai des amours dans le monde de la musique aussi.
Stars.
Alors, avec David Lynch, Norador, il ne s'agit pas de lire un scénario, il s'agit de se rencontrer. Vous aviez 18 ans lors de cette première rencontre. Quel souvenir vous gardez de cette première fois?
I met him for Blue Velvet, and I will never forget the meeting. Was like meeting family.
David Lynch, je l'ai rencontré à l'occasion de Blue Velvet. Je venais d'avoir 17 ans, je n'oublierai jamais cette rencontre. C'était comme rencontrer un membre de ma famille, je ne sais pas bien pourquoi. Mais tout ce qui concerne David est nimbé de mystère, mais aussi de magie. J'ai eu beaucoup de chance. Il n'y a pas eu d'audition au sens traditionnel, mais il a eu cet instinct de m'embaucher. Et c'est une aventure, une amitié, une collaboration qui dure depuis ce moment-là. Et je dois dire que c'est une expérience formidable. La plus formidable expérience de ma vie d'artiste.
Mais dans Blue Velvet, il n'y a en fait que Dennis Hopper qui à ce moment-là est un acteur confirmé. Vous êtes les autres, même si certains sont connus, des débutants. Comment est-ce que s'est passé le lien entre vous?
David invited Kyle and I.
David nous a invités, Kyle MacLachlan et moi, pour aller au Bob's Big Boy. C'est un diner typiquement américain des années 50. Évidemment, ça plaît beaucoup à David Lynch, ce genre d'endroit. On a mangé des frites. Si vous connaissez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est ainsi que notre relation s'est cimentée. Et puis Isabella Rossellini, Dennis Hopper, c'était comme de la famille pour moi. On dînait ensemble pendant le tournage. Je dois dire que c'était une expérience exceptionnelle. Ce tournage de Blue Velvet, c'était comme aller à la fac pour tout apprendre.
4 ans plus tard, c'est célébré le là, Wild at Heart, Palme d'Or à Cannes, bien sûr. Puis ce sera le sublime Inland Empire en 2006, qui va ressortir en version restaurée, ça c'est vraiment une joie. Et puis le rôle de Diane dans Twin Peaks The Return en 2017. C'est 30 ans de collaboration avec David Lynch, on espère que c'est pas terminé. Mais qu'est-ce que ça a changé pour vous, en tant que comédienne, en tant que femme, toute cette collaboration avec David Lynch?
Everything.
Ben ça a tout changé.
As you know, knowing David.
Comme vous le savez, puisque vous avez déjà rencontré David Lynch, Arnaud.
He is a true Renaissance man.
C'est un homme qui a de multiples talents. Il sait tout faire.
He is radically humble.
Il est humble au-delà de tout ce qu'on peut penser.
He makes art every day.
Croque la vie à pleines dents.
Whether he's telling the weather or making a song or
qu'il vous raconte le temps qu'il fait, qu'il écrive une chanson, qu'il la chante, qu'il peigne ou qu'il travaille sur un film, l'art, il l'a dans la peau.
And he loves life.
Et je l'ai dit, il adore la vie. Il adore faire des films. Il adore telling stories.
He loves coffee.
Des histoires. Il adore le café. Il adore manger de la tarte.
And he's the most inspiring person I've ever known.
C'est la personne qui me donne le plus d'inspiration.
I have never witnessed him.
Je ne l'ai jamais vu
making art
en train de faire de
for
l'art
others.
Pour
he makes
les
it because
autres.
He has to.
Il fait de l'art parce qu'il n'a pas le choix.
Burning
en fait,
inside
c'est un feu qui brûle en lui. C'est un feu qu'il doit faire sortir
so
de lui-même. C'est d'une immense
it
pureté.
It changes the definition
et,
of
fait,
what storytelling
ça
should be.
Change la
and
définition
it's equally
que l'on
filled
donne
with
à la notion de narration et de récit. En même temps,
and faith
c'est
in people
plein de, d'innocence
and the darkest shadow
croit
of life.
Aux gens. Et puis en même temps, il s'est montré ce qu'il y a de plus sombre dans la vie. Quel réalisateur? Je ne connais aucun réalisateur qui sache franchir toutes ces limites et parcourir cette ligne de crête en tant que femme, en tant qu'actrice. Il
n'a pas poussé dans
les derniers retranchements, notamment dans Inland Empire, parce que je joue pratiquement tous les personnages, mais sans le savoir à l'époque.
Hein. Il y a justement une dimension sous-estimée chez David Lynch, c'est cette dimension comique qui est quand même présente dès Eraserhead, qui est présente aussi dans Sailor et Lula, et dont on parle peu. Est-ce que ça vous en avez parlé avec lui?
I think it's why I bring up Lucy because
tout à l'heure, je vous ai parlé de Lucille Ball, Riley et Lucy.
See his films
parce
as
que les films de David Lynch, moi, je les trouve
and
hilarants
and
et terrifiants et beaux. Vous voyez?
And so I would say yes, particularly in Sailor et Lula.
Particulièrement en ce qui concerne Sailor et Lula.
You know, working on Twin Peaks, you feel the comedy
Twin Peaks
and you feel the rhythm in it.
L'aspect comique, le rythme.
You know, I got to act with David in Twin Peaks as well.
J'ai joué aux côtés de David avec Twin Peaks. Quel délice!
So finding the comedy.
L'aspect comique
myself and his character
que je puise
taking
en
a cigarette together.
Et le personnage avec lui, on prend une cigarette et en même temps, on fume la cigarette, on marque une pause. Ensuite, je marque une petite pause, je lui donne la cigarette et il me rend la cigarette. Et il n'y a rien d'autre qui se passe dans cette scène.
Eh
bien, c'est complètement contagieux ça, et c'est tellement drôle.
Dans Inland Empire, on rigole beaucoup moins quand même, mais on peut dire que David Lynch a vraiment travaillé le matériau de l'actrice que vous êtes. C'est ça vraiment être une muse.
I don't know. All I know is he's my muse, and he says
je sais
I'm
pas.
His.
Mais lui, c'est ma muse en tout
so
cas.
So it's like one organism.
Il dit que je suis la sienne. Bon, c'est bidirectionnel. Peut-être qu'une muse.
Reflecting
c'est
yourself back.
Quelqu'un qui reflète qui vous êtes vraiment.
Yeah. And obviously he has this with Kyle too in a very different way.
C'est la même chose avec Kyle, mais d'une façon différente.
Kyle MacLachlan, but it's wild to feel
mais
like you represent something deep
de penser que
of your filmmaker.
On représente
you
un
know, seemingly very opposite David,
dans
and yet somehow symbiotically part of
vous voyez,
one.
Je ne suis pas David Lynch, mais pourtant il y a une symbiose entre lui et moi.
Puis pour nous approcher de The Sun, ce film de Florian Zeller, ce qui est formidable dans votre parcours, Laura Dern, c'est que vous pouvez suivre David Lynch au fin fond de la Pologne, alors que vous avez aussi fait Jurassic Park, on vous a vu dans l'épisode 8 de Star Wars, aujourd'hui dans The Sun, vous êtes une comédienne ouverte à toutes les propositions.
Very much so, and I think
ah oui,
for any
ouverte, oui. Et comme je l'ai dit, le fait de travailler comme comédienne avec des parents comédiens et avec l'expérience que j'ai eue d'assister à des tournages, j'ai pu bien comprendre la relation entre les comédiens et le réalisateur, maestro, maestra, et ces relations-là, c'est ça que je recherche, justement. Ces relations me guident. Parfois, les gens disent « Oh, tu tournes dans un film indépendant et ensuite tu tournes dans une franchise hollywoodienne. » Non, moi je tourne avec David Lynch, puis avec Spielberg. Et puis Spielberg, il fait un film avec des dinosaures dedans. Bon, moi je me dis « Il est complètement dingue ce Spielberg. » Mais il faut que je le fasse, parce que c'est le premier film de la sorte. C'est radicalement différent. Et en même temps, ça avait une allure de film indépendant.
Les visiteurs plus aventureux peuvent bien sûr opter pour notre croisière de la jungle ou pour une observation rapprochée.
Aucune de ces attractions n'est encore prête, bien sûr, mais le parc ouvrira avec le circuit de base que vous allez faire. D'autres itinéraires viendront s'y ajouter 6 à 12 mois après, de conception absolument spectaculaire. J'ai dépensé sans compter.
Et nous pouvons faire payer ce que nous voulons, 2 000 $ la journée, 10 000 et tout le monde payera. Et ensuite, il y a le merchandising. Je peux conseiller personnellement.
Ce parc n'a pas été fait pour ne pourvoir qu'au plaisir des super riches. Toute personne au monde a le droit de profiter de ces animaux.
Bien sûr, tout le monde. Nous aurons un système de forfait à la journée, tarif réduit.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Écoutez, je crois que vous ne nous jugez pas à notre juste valeur.
Mais la question est, comment savoir quoi que ce soit sur un écosystème disparu? Et par conséquent, comment affirmer qu'on peut le contrôler? Je veux dire, vous avez des plantes dans ce bâtiment qui sont vénéneuses et vous les avez prises parce qu'elles étaient jolies. Mais ce sont des organismes vivants et agressifs qui n'ont aucune idée du siècle où ils sont et qui vont se défendre avec violence si nécessaire.
Justement... Steven Spielberg dans Jurassic Park vous a donné un rôle de femme puissante, ce qui n'était pas très fréquent à l'époque. Depuis, ça a heureusement changé. Une année intéressante, 2017, on voit sortir à la fois le film de Kelly Reichardt, Certain Woman, et puis la diffusion de la première saison de Big Little Lies. Dans ces cas-là, les femmes ont une place d'une part principale, et puis ce sont des femmes fortes. Les temps ont changé.
Very much so.
Ah oui, les temps ont changé. Beaucoup.
You know, in the last several years,
au cours des dernières
années, portrayed women in positions of power,
des femmes
in,
qui détiennent le pouvoir,
CEOs of,
PDG,
you know, tech,
de sociétés de technologie,
radically powerful
des femmes
attorney
ultra in Noah Baumbach's film. Le film de Noah Baumbach, je suis avocate.
Women who are voracious in their appetite.
Des femmes dont l'appétit dans le carriérisme sont voraces. Et pourtant, elles n'ont pas l'allure d'ennemis. Dans le passé, si je devais incarner une femme puissante, c'était évidemment assez péjoratif.
Now, it doesn't need to be defined. She can be complicated, she can be arrogant, or she can be humble and delicious. Perhaps no more powerful character I've played
sinon,
in the last decade than the matriarch in Little Women.
J'ai joué dans Little Women,
one of the great powerful characters
ça,
in literature,
in the history of literature. De l'histoire de la littérature.
Vous évoquez justement Marriage Story de Noah Baumbach. Enfin, en 2020, un Oscar pour vous, Laura Dern. Quelle importance vous accordez aux récompenses?
So, I was raised watching the Oscars.
Les Oscars, je les ai vus à la
télévision
de nombreuses fois
parents,
quand j'étais en France. Je suis allé à la cérémonie de nombreuses fois avec mes parents lorsqu'ils étaient nominés. Donc, pour moi, il y a un rituel.
Very moving
et ce
to me.
Rituel m'a beaucoup ému quand j'étais petite. C'était important pour mes parents parce que c'est l'histoire du cinéma que l'on voit sous les yeux à l'occasion des Oscars. Et par conséquent, ils sont fiers d'y participer.
It was very moving to my family.
Donc, ça y a un caractère très émotionnel.
Win an Oscar to have my mother with me.
Donc j'ai gagné cet Oscar.
Moment.
Ma mère était avec moi.
My father's part of Quentin Tarantino's film, Once Upon a Time in Hollywood, which was also nominated that year.
Once Upon a Time in Hollywood.
So
Tarantino a été nominé. Cette année-là, mon père jouait dedans. Donc c'était une ambiance familière et familiale.
Mais au-delà de ça, in radical independent
et
film.
J'ai quand même vécu et j'ai grandi dans le milieu du film indépendant aussi. Et donc,
of a film
je connais
honored by film festivals, by the Academy,
une récompense
by journalists
dans un festival
as yourself,
de films,
being the way audiences find
les Oscars,
them.
Je sais
if they are not a franchise, we need this.
Parce que le public va aller les voir.
And so with
quand
all humility,
gros, budget,
I am grateful to be acknowledged,
en toute humilité,
but wanting movies to be found,
de recevoir une récompense. Mais le fait de
films
mettre
like Florian
en lumière
Zeller's,
des films,
or Noah's,
les films
or any film
de
like
Florian Zeller,
David Lynch,
ou de Noah Baumbach, ou de David Lynch, cette lumière est absolument nécessaire. Ce soutien est indispensable.
What are you doing here?
Nicholas hasn't been to school in almost a month.
I wanted to ask,
how are you?
Has something happened? You realize the school is talking about expelling you.
Can I live with you?
You said you don't feel very close to people your age.
Your other son, he needs you as well. And you were at work all of the time.
Has he been able to talk about the divorce?
I've tried to be there for you. I've tried to give you strength. What's going on? Are you on drugs? You think you can just live your life doing whatever you feel like?
I don't know what's happening to me.
I feel like a complete failure.
I wasn't there for him.
There used to be so much joy in our family.
You give these big speeches about life, and then you abandon us.
I have the right to reinvent my life!
Hello, son. You came to tell me what a good dad you are? What do you want? Applause?
It's my little boy. I can't give up on him.
Dans The Sun, le film de Florian Zeller, adapté de sa pièce Le Fils, donc on découvre Nicolas qui a 17 ans, qui est en décrochage scolaire, qui ne va pas bien du tout. Il vit chez sa mère, Kate, que vous interprétez, qui ne sait pas quoi faire pour redonner le sourire à son fils. Et puis, Nicolas demande à aller vivre chez son père, qui s'est remarié, qui vient d'avoir un autre fils avec sa nouvelle compagne. Si le monde va mal, et de plus en plus mal, la jeunesse semble quand même particulièrement touchée aujourd'hui dans les sociétés occidentales. Ce film est, je trouve, extrêmement contemporain en ceci, qu'il s'adresse à cette question-là. C'est un problème essentiel. Quel sens a la vie dans ce monde pour les jeunes aujourd'hui ?
I feel honored that Florian asked me to be part of this.
C'est un grand honneur que Florian Zeller m'ait demandé de participer à ce projet. Les raisons sont nombreuses, je vais vous expliquer. Mais s'agissant du sujet, parce que c'est votre question, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire.
Tragically, it's now the pandemic we are facing.
C'est une pandémie à laquelle nous sommes confrontés.
Exacerbated, as we know, by a global pandemic.
Est exacerbé par la pandémie de la COVID.
The lack of gun safety.
Aux États-Unis, nous manquons de sécurité. Il y a trop d'armes à feu en circulation.
By questions of climate change.
Il y a le changement climatique.
Our youth. And now, recently, a few days ago, an article in the Atlantic.
Les jeunes sont touchés.
The connection between social media and teenage mental health.
Rapport entre la santé mentale qui se dégrade chez les jeunes et l'utilisation excessive qu'ils font des réseaux sociaux. Tous ces problèmes sont liés les uns aux autres. Nous, parents, nous n'avons pas les réponses, mais il faut faire en sorte que la honte disparaisse, il faut arrêter de stigmatiser, il faut poser les questions de but en blanc et il faut des conversations, il faut un dialogue pour savoir qu'est-ce que l'on peut faire pour soutenir les jeunes.
Avant de revenir à ce que nous dit le film, comment est-ce que vous préparez-vous un rôle, Laura Dern ? Est-ce que vous avez une méthode ? Est-ce que vous racontez la biographie du personnage ? Est-ce que vous tenez un carnet ?
All of those things, studying acting, as you mentioned,
je fais tout ce que vous venez d'évoquer. Le travail de comédienne, je l'étudie depuis toujours. Et je l'ai étudié à l'Institut Lee Strasberg. Au moment du tournage de Blue Velvet, j'ai rencontré Sandra Sicat, qui a été mon professeur toute ma vie, qui nous a malheureusement quittés. J'ai appris la méthode de l'Actor Studio, mais au-delà même de cela, je suis amené à vouloir comprendre l'humanité d'un personnage. Et c'est une découverte qui dure toute la vie. Toute la vie, on essaye de comprendre, d'éprouver de la compassion, malgré nos différences, malgré les différences des défis que nous avons tous à relever. Je m'intéresse à la psychologie des personnages. J'essaye de décomposer ça en différents éléments. Je me documente, je fais des recherches, je lis beaucoup. J'adore étudier, j'adore apprendre. La complexité humaine, je trouve ça fascinant.
Dans le film, aucun des adultes n'a le beau rôle, même si votre personnage, Kate, au départ, semble porter une part plus grande de responsabilité sur le mal-être de son fils. Il verra que les choses sont moins simples que ça, mais alors, les films sont rarement tournés dans l'ordre chronologique dans lequel nous les voyons. Comment est-ce qu'on convoque les sentiments justes pour la scène à jouer ?
I was really moved that Florian chose not to do rehearsal on this film.
Florian a choisi de ne pas faire de répétition pour ce film. Et
and I think the emotion is so raw.
Parce que c'est de l'émotion brute.
That each day we showed up and he gave us another opportunity to.
On a une nouvelle occasion.
Explorer
l'émotion du moment
particularly
présent.
With Hugh Jackman and myself.
Avec Hugh Jackman.
Portraying these
et
parents.
Moi, nous sommes les parents. Qui
as we do our children more than anything in the world,
plus que
with
tout,
no answers,
et nous n'avons pas de
and in the case of a mother,
Kate,
accepting all the blame,
que j'incarne, j'assume toute
as
la responsabilité,
though you're helping.
Comme si assumer la
but
responsabilité
is,
c'était apporter de l'aide, mais en vérité,
when you live in
lorsque
the belief that you are a failure,
vit en croyant
it's almost like you're trying to control
pas,
it.
C'est comme
if
si on essayait de
problem,
maîtriser les choses. Si moi je suis
then I'm in control.
Le problème, c'est moi qui maîtrise la situation. Vous voyez, c'est un peu ça.
But even more vulnerably, there are no answers.
Les réponses n'existent pas pour autant.
With a specific diagnosis
ne nous donne pas de réponse avec un diagnostic ou un médecin ou des médicaments. Non, ces questions sont insaisissables. Comment surmonter une crise mentale ? Mais le dialogue, la conversation, ça c'est le début de la guérison.
Sur le plateau, qu'est-ce que vous pensez apporter, vous, à vos partenaires?
Oh, I don't know. I mean, it depends on who you ask.
Ça dépend, faudrait leur demander, hein.
But in this case, Florian's film,
s'agissant du film de Florian,
you and I gave each other
et moi,
the deep partnership.
Nous nous sommes apporté un partenariat profond.
The heartbreak and the bliss of parenting.
On retrouve dans la difficulté sentimentale et la bénédiction que c'est d'être parents. On
we
a
are
des
both
réponses,
teenagers
mais on ne les a pas toutes.
Right.
Donc, nous avons lui et moi d'ailleurs des
exactly
ados.
The same age.
Lui, il a une fille et
so,
un fils. Moi aussi, d'ailleurs.
It was an incredible privé, discovery.
Donc, quelle découverte
of,
sur le
complexity
tournage.
And beauty.
On a découvert cette complexité, la beauté qu'il y a.
And I hope I offer available.
J'espère. Pour répondre à votre question, que j'apporte
partners,
de l'honnêteté
director,
à mes partenaires,
and
à
never
mon réalisateur.
Run from that, because
et
your greatest
tenir,
wish as an actor is you look in the other actor's eyes, and we
ce que l'on désire le plus profondément, c'est de rester honnête, et il faut que ça se voit dans les yeux du partenaire avec qui on joue.
Alors une dernière question, Laura Dern, Florian Zeller a écrit la mère, le père, le fils, bon, il n'a pas encore écrit la fille, mais vos deux parents sont toujours de ce monde, et tant mieux, quel regard est-ce qu'ils portent sur la femme que vous êtes devenue?
I think they're happy.
Il me semble que mes parents sont
that
heureux,
I have found
heureux
my way
que
to
j'ai trouvé ma voie,
a vocation
que j'ai exploité ma vocation,
that has made me
vocation
stronger,
et travail qui m'ont
louder,
rendu plus forte,
and more vulnerable,
qui m'ont appris
all at the same time,
à m'exprimer, qui m'ont donné
with a sense of humor about it all.
Plus de vulnérabilité,
and
et
they
tout ça
set that example,
avec de
and
l'humour.
I'm very grateful.
Et c'est eux qui ont l'exemple, et je leur serai toujours reconnaissante.
Merci infiniment, Laura Dern.
Ah, merci. Merci. Thank you so much. Thank you for this beautiful interview.
Je rappelle que vous serez à l'affiche de The Sound de Florian Zeller qui sort demain, 1er mars, et puis on attend impatiemment la ressortie en salle de Inland Empire de David Lynch en version restaurée le 31 mai. Et puis merci à vous, chers auditrices et auditeurs, d'avoir bien voulu écouter cet enregistrement altéré que nous avons arrangé du mieux que nous pouvions.
France Culture, culturel, Arnaud Laporte.
Bonsoir Lucille Comeau.
Bonsoir Arnaud.
Dans l'affaire critique ce soir, vous nous parlez d'une série très regardée, très commentée, The Last of Us.
Oui, très commentée, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout, absolument tout, est décrypté par une communauté qui excède largement celle des geeks et des fans. Par exemple, dernièrement, l'apparition dans l'épisode 6 d'une coupe menstruelle a fait l'objet d'un article entier dans The Huffington Post. The Last of Us est une série produite et diffusée par HBO, la chaîne américaine reine des séries de qualité, créée par Neil Druckmann et surtout Craig Mazin, à qui on devait déjà la série Tchernobyl. Elle est surtout l'adaptation d'un jeu vidéo à succès, du même titre. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, The Last of Us, dans un futur proche, un champignon toxique transforme massivement les hommes en zombies. Sur la planète dévastée, quelques communautés se sont barricadées dans des villes bunkers où la violence règne. Joel, un homme d'une cinquantaine d'années, vit à Boston dans un de ces lieux protégés et fortement militarisés. Il vit de trafic et on le comprend vite à quelques états de service en tant que tueur. Un jour, une chef de la rébellion locale, un mouvement qui s'appelle les Lucioles, lui confie une jeune fille de 14 ans, Ellie. Contre rétribution, il doit l'amener dans un laboratoire. Elle est très importante apparemment pour le devenir de l'humanité. Alors, ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est évidemment à quel point la série colle ou pas aux jeux vidéo. Alors je ne suis pas moi-même une joueuse, mais j'ai pris un cobaye en la personne de Boris Pinault pour allumer une PlayStation et voir ce que ça donne. Alors c'est vrai que c'est assez troublant à quel point série et jeu se ressemblent de prime abord. D'abord en termes d'intrigue, la série ouvre avec exactement le même prologue que le jeu, à savoir un flashback sur le jour où tout a basculé, hein, où Joel a tout perdu. Les décors sont très inspirés du jeu, principalement des ruines où survivent quelques traces de la civilisation, voitures retournées, stations essence, câbles qui pendent au milieu d'une végétation invasive et surtout ces champignons qui, nonobstant leur dangerosité, transforment corps et décors en installations végétales foisonnantes avec de beaux tons roses, gris, violets et des corolles tout à fait admirables, bon, jusqu'à ce qu'ils se meuvent en zombies.
Alors, petit rectificatif, vous êtes joueuse, Lucille Comeau. Bon, pas Last of Us, mais joueuse quand même, ouais, il faut le dire. Bon, on a l'impression que ce que vous aimez dans la série, c'est qu'elle est jolie.
Oui, elle est jolie. Voilà. Le problème, c'est que la série paraît hésiter en fait entre des formes concurrentes, une indétermination qui tient peut-être à sa filiation avec un jeu vidéo. On dirait que pour éviter qu'on lui reproche d'être juste de la cinématique améliorée, vous voyez ce que c'est la cinématique dans les jeux vidéo, ce sont ces moments où l'action s'arrête. En gros, vous avez plus la main. Donc, la série, elle ralentit, elle se balade, elle digresse pour se la jouer un peu esthétique, intello et humaniste. C'est le cas par exemple dès le troisième épisode, très remarqué, qui abandonne ses deux héros le temps d'un petit drame amoureux entre deux hommes survivant seuls dans leur village de la Nouvelle-Angleterre, jouant du piano, plantant des fraises et faisant l'amour après avoir bu un bon Bourgogne. C'est pas mal, mais ça manque de lion et c'est un peu déceptif. Dans cette première saison, finalement, il y a très peu de scènes d'action et surtout très peu de zombies. Bon, c'est pas grave en soi, mais seulement cette dilution de l'intrigue compromet un peu l'intérêt qu'on lui porte. Moi, à chaque épisode, le lundi soir, je sais plus vraiment où vont Joel et Ellie, ni vraiment pourquoi. De la même manière, il semblerait que la communauté zombie soit variée. On parle de cliqueurs, hein, c'est les zombies qui cliquent. Dans un autre épisode, apparaît un immense spécimen, beaucoup plus grand que les autres, qui paraît donc différent, mais tout ça, c'est pareil, on sait pas exactement pourquoi. Ce qui intéresse la série, c'est la relation entre Joel et Ellie, qui sont très bien interprétés au demeurant par Pedro Pascal, décidément depuis la série Mandalorian où il se trimballe partout, une espèce de mini Yoda, il est devenu une espèce de babysitter universel, et surtout par Bella Ramsey qui joue Ellie, jeune actrice tout à fait impressionnante. Alors on s'ennuie un peu, mais c'est beau. Ça ressemble moins à un film de zombies qu'à un épisode de série apocalyptique un peu rebattu au pire, au mieux à un long film d'apprentissage des années 90 avec de grands paysages, comme dans cet épisode 6, qui reste probablement mon préféré, dans lequel Joel et Ellie rejouent un genre de mini-western dans les décors montagneux du Kansas. Une sorte d'appel d'air, mais que l'épisode suivant coupe net, rabattant la fiction sur un énième flashback un peu pleurnichard concernant cette fois le passé d'Ellie à Boston. On aimerait bien que tout ça avance un peu plus, que la série fasse suffisamment confiance à ses personnages et à leur construction, désormais bien solide, pour les plonger dans une intrigue plus soutenue.
Bon, je suis très curieux. Moi, j'ai pas encore commencé. Vous savez, j'attends.
J'ai pas divulgaché. Hein,
non, mais je vous en remercie. Vous faites très bien. Bon. Le manque de zombies m'inquiète. Hein, mais bon. The Last of Us, première saison en cours de diffusion sur la plateforme Prime Video. Merci Lucille Comeau. Affaire en cours à présent avec vous, Marie Sorbier. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Au Québec, les habitants parlent français et pourtant, leurs films sont sous-titrés quand ils sont diffusés en France.
Oui, la série de Xavier Dolan, ce réalisateur québécois, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, vous en aviez parlé ici même d'ailleurs, Lucille, elle est toujours visible sur Canal+, et elle est sous-titrée en français. Alors la presse québécoise s'émeut et dénonce une négation de la francophonie, et je cite... une insulte aux Français parlés au Québec. Alors, ce n'est pas la première fois. De nombreux films québécois sont sous-titrés dans ce que l'on appelle le français de France, filtrant ainsi la poésie et le vocabulaire particulier du Québec. Je suis allée demander à Myriam Darcy ce qu'elle pense de ces sous-titrages.
Comment tu te sens ce matin?
Bien.
Bien.
Avec la mort de ma mère, mettons que... ma famille est fragile. Ça m'est brassé des vieilles affaires. Des choses, des gens du passé.
Du passé, comme quoi? Comme qui? Ta soeur?
D'après moi, avec maman qui vient de partir, ça devrait pas être long avant qu'elle applique.
Salut, Julien.
À quoi t'as pensé, tabarnak?
Ben ouais, mais tu savais bien que ça arriverait. Voyons donc, dans quel monde tu vis?
À pas d'affaire de venir ici puis brasser de la merde, sortir des affaires du passé qui ont pas d'affaire dans le présent.
Le temps arrange ces choses-là. Il y a eu le temps où on grandit. Où on regarde les gens pour ce qu'ils sont. Ce temps-là s'en vient pour toi, Mimi.
On veut plus l'entendre parler de ce qui s'est passé cette nuit-là, de tout ce petit drame-là, de Laurier Gaudreau. On veut plus l'entendre parler, jamais!
Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là?
Myriam Darcy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice de la Fondation Lionel Groulx qui promeut l'histoire, la langue et la culture québécoise. Pensez-vous, comme semble le signifier ces sous-titres, que le français du Québec et le français de France sont deux langues différentes?
Bien sûr que non, on parle la même langue et les Québécois arrivent à comprendre sans mal les films français. Je pense évidemment aux merveilleux films de Claude Berry et d'Yves Robert qui ont adapté l'œuvre de Marcel Pagnol, qui ont bercé mon enfance. L'accent du Sud, la langue du Sud de la France est bien différente, mais pourtant, on arrive à la comprendre. Alors, je suis certaine que c'est la même chose là pour les régionalismes du Québec. Et puis, voilà.
Et pourquoi pensez-vous qu'on sous-titre? C'est dû à quoi? Une fainéantise du spectateur français?
Ben, je pense qu'il faut faire confiance au public français pour comprendre l'accent québécois. Les films de Xavier Dolan, je pense à Mommy, J'ai tué ma mère, sauf erreur, n'étaient pas sous-titrés. Donc, il faut faire confiance au public français. Bien sûr, le français de France est assez répandu. On l'entend beaucoup dans le monde entier, mais reste que c'est la même langue. Et puis, c'est important aussi pour bien comprendre une œuvre. Il faut comprendre sa langue, ses accents particuliers. Et dans la langue de Xavier Dolan, les dialogues sont au centre de son œuvre et ils sont un personnage en tant que tel. Ils sont brillants, percutants. Alors, c'est sûr qu'avec des sous-titres qui ne disent pas tout à fait les mêmes choses, on perd la subtilité de l'œuvre, de sa couleur. Et puis, c'est bien dommage.
Oui, on perd de la richesse parce que quand on voit, par exemple, des sous-titres, notamment sur les scènes d'insultes ou sur les scènes où il s'énerve, les insultes, évidemment, sont traduites. Ça semble presque un contresens tellement les mots ne veulent pas dire la même chose.
Exact. Et puis, la langue de Xavier Dolan, elle en dit beaucoup sur les conditions socio-économiques de ses personnages, de la région d'où ils viennent. Alors, c'est important de ne pas perdre de subtilité. Puis, comme on parle la même langue, des fois, évidemment, on comprend pas toujours tous les mots, mais on comprend le contexte de la phrase. Alors, moi, je dis, faisons confiance au public français. Et je suis certaine qu'il va comprendre l'accent du Québec.
Vous avez dirigé en 2020 les Rendez-vous Québec Cinéma. Est-ce que le sous-titrage est un passage obligatoire pour la diffusion des films québécois dans le monde francophone?
Pas du tout, mais non, pas du tout. Pas les films québécois en France. Bien sûr, dans les pays où la langue n'est pas le français, les sous-titres sont ajoutés, puis ça, c'est bien normal. Vice-versa, les films qu'on voit dans une autre langue que le français sont sous-titrés, mais... Mais c'est pas la norme de sous-titrer des films dans la même langue.
Vous le disiez tout à l'heure, en effet, il y a aussi, quand on parle de Français de France, cette expression, elle est un peu étrange, parce que en France, on a aussi plusieurs Français. Vous évoquez l'accent du Sud, on peut aussi penser aux Français de Sarcelles. Je pense à cette série En Place que cite l'article du Québec, en disant que quand elle est retransmise au Québec, ben voilà, les Québécois font l'effort de comprendre ce langage particulier. Est-ce que il y a aussi, j'imagine, au Québec, plusieurs accents et plusieurs Français du Québec?
Bien sûr, bien sûr. Le français de la Gaspésie, l'accent est différent de celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou de Montréal. Bien sûr qu'il y a des subtilités, mais on se comprend tous et on devrait tous se comprendre partout dans la francophonie.
Est-ce que c'est un sujet qui touche les Québécois quand ils voient, par exemple, une série comme celle-là sous-titrée en français? Est-ce que c'est vexant?
Ben, vexant... Ça nous amuse parce que, comme je le disais en début d'entrevue, les Français comprennent bien l'accent du Québec, là, si on leur en donne la chance, mais ça nous amuse parce que, bon, on fait l'effort de comprendre l'accent français dans toutes ses subtilités. Puis, c'est dommage surtout pour l'œuvre, là, c'est dans le cas de Xavier Dolan, c'est dommage pour son œuvre, c'est dommage aussi pour le travail des acteurs qui ont fait un travail formidable dans cette série. Et c'est dommage aussi parce que on permet pas de comprendre toute la complexité de la culture et de la langue québécoise.
Merci beaucoup, Myriam Darcy.
Et merci à vous, Marie Sorbier. Comme chaque soir, nous quittons ce studio, nous quittons Paris pour prendre des nouvelles d'artistes présentant leur travail un peu partout en France ou à l'étranger. Ce soir, nous sommes en ligne avec le guitariste Christophe L'Huillier. Bonsoir.
Bonsoir.
Votre groupe Astéréotypie vient de sortir son troisième album. Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Vous êtes actuellement en tournée. Je vais donner les dates dans un instant. Astéréotypie, c'est un collectif qui rassemble 9 membres, qui s'est constitué il y a une dizaine d'années à l'Institut médico-éducatif de Bourg-la-Reine. Autour de vous, Christophe L'Huillier, vous étiez éducateur. Comment est venue d'abord l'idée de mettre en musique la parole de ces femmes, de ces hommes qui ont en commun d'être concernés par l'autisme?
Bah, à la base, j'étais éducateur, en fait. Éducateur dans un IME, et bon, évidemment, je suis musicien à part. Enfin, je veux dire, dans d'autres projets. Et puis, l'idée m'est venue d'eux, en fait. Ce qu'ils disaient, ce qu'ils racontaient, la façon dont ils disaient. Et puis, cette espèce d'énorme charisme qui se dégageait d'eux, et qui est une leçon de charisme. Et il n'y avait plus qu'à s'entourer des meilleurs talents, quoi.
On écoutera tout à l'heure un extrait d'un de vos morceaux. Évidemment, les textes sont extrêmement importants dans ces chansons. Est-ce qu'il y a des grands thèmes particuliers abordés dans ce troisième album?
Alors, je pense que nos chanteurs ont des lubies, ont des sources d'inspiration qui sont assez lunaires. Et, comme beaucoup d'artistes, sauf que là, effectivement, ils vont puiser leur inspiration dans des chiffres, dans des formes, dans la télé-réalité. Enfin, il y a pas vraiment de thématique de prédilection, mais il y a beaucoup de choses qui, au final, parlent absolument à tout le monde, quoi.
C'est bien ce qu'il me semble. Alors, le label avec lequel vous travaillez aujourd'hui, Arithmo, est un label créé par les membres du groupe Moriarty, qui s'associe à la collection La Belle Brute, qui défend les pratiques brutes de la musique. Est-ce que, avec Astéréotypie, vous revendiquez cette pratique d'art brut?
Disons que du point de vue des textes, oui, si vous voulez, l'art brut, c'est toute une réflexion. On peut en parler pendant très longtemps. Pour moi, j'espère que l'art brut, ce ne sera qu'une étape pour qu'après, il y ait juste des murs avec des collections d'art tout court, sans qu'on distingue les artistes bruts des autres. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça facilite quand même pour l'inclusion de certaines personnes un peu singulières et qui, pour moi, restent des artistes à part entière. Donc on va dire que c'est une étape, en ce qui me concerne, hein. Si on doit poser la question, c'est une étape en vue d'une inclusion totale. Quoi, en tout cas, en ce qui concerne la partie artistique.
Concernant les concerts, puisque vous êtes en tournée, comment est-ce que vous appréhendez la scène ?
Moi, je l'appréhende en tant que guitariste. C'est un collectif, donc je fais absolument confiance à tout le monde. On est vraiment une équipe. Et puis des fois, quand je l'appréhende ou quand ça me fait un peu flipper, c'est plutôt quand j'ai beaucoup de réglages de pédales à faire. Parce que j'ai confiance en mes collègues, j'ai un peu moins confiance à moi.
Mais il y a une énergie très particulière quand même qui se dégage de votre groupe, Christophe L'Huillier.
Oui, on en a parfaitement conscience. On sait que les gens sont captivés autant par les textes que la prestance scénique. Et on sait aussi que la musique, elle plaît. Mais on a conscience qu'il y a vraiment ces trois axes qui produisent vraiment un effet sur le public. On est assez flattés parce qu'on fait en même temps, on leur fait vraiment confiance. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça où chaque concert, je veux dire, c'est le cas de n'importe quel groupe, mais là, on va dire en particulier, ça l'est d'autant plus qu'on sait jamais trop ce qui va se passer dans les interludes, dans la façon d'interpréter. Bon, il y a quelques petits décalages des fois qu'il faut rattraper, mais bon, ça m'arrive aussi dans mes autres projets musicaux.
Vous faites également partie de la rédaction du journal Le Papotin, qui existe depuis 33 ans maintenant, et qui connaît enfin une plus grande visibilité depuis que le samedi soir sur France 2, on voit en action ces interviews menées avec des personnalités, avec ce groupe Astéréotypie. Cette mise en lumière, du coup, vous la ressentez dans vos concerts, par le public qui vient peut-être différent qu'avant ?
Bah oui, c'est le troisième album de la Stéréotypie, avec en plus ce qui se passe cette émission en prime time, comme ça un samedi, c'est vrai que ça a amené une énorme visibilité sur ces projets qui étaient quand même très invisibilisés. Alors Arthur, l'autre guitariste de la Stéréotypie, lui, il dit qu'il est surpris que ça n'ait pas rencontré ce succès-là avant.
On est d'accord.
Moi, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. Et du coup, de manière plus générale, ça, je pense que ça réinterroge la question des artistes un peu, en disant, en marge. Enfin, un artiste est souvent un peu à la marge, mais là, plus particulièrement, ça remet un peu en question la place et comment on peut faire une réflexion sur l'apport de la marge et de ces artistes qui ont souvent été, je pense, invisibilisés dans l'histoire de l'art. Et donc là, aujourd'hui, ils ont vraiment voix au chapitre. Et c'est vrai que ça arrivait tout d'un coup, en une année, il y a absolument tout qu'à changer. Donc on espère que ça peut créer et pérenniser d'autres actions.
On le souhaite également. Il me reste à vous remercier, Christophe Hullier, en rappelant que le dernier album du collectif Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme, apparu sur le label Air Ritmo. On va se quitter en musique, mais avant ça, je donne plutôt les dates de la tournée. 1er mars, Clermont-Ferrand, 2 mars, Saint-Flour, 6 avril, à Paris, La Station, 7 avril, Lyon, 27 avril, Pau, 28 avril, Toulouse, 26 mai, Nantes et 27 mai, Saint-Brieuc.
Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Mais Kevin, crétin de Secret Story 3, oui. Il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est imbécile. Mon cousin par alliance, par moment, ressemble à Brad Pitt. Mais il n'a pas les mêmes muscles. Michael Vendetta ne ressemble pas à Brad Pitt, même s'il est blond. Il est nunuche, c'est un connard, il ne mérite pas de gagner la fame de célébrité. Son métier, c'est de faire le buzz. Il a la même voix que Sting dans le dessin animé Fairy Tail. J'ai partagé ma chambre avec ma copine Léa, qui ressemble à Scarlett Johansson en rousse. Nicolas, mon mono de ski à la plane, ressemble à Hayden Christensen. Je crois qu'il est célibataire, mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je ne l'oublierai jamais. Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. La vie réelle est agaçante. Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt.
Je raconterai tout.
Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Comeau, Marie Sorbier et Lise Ripoche.